Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 20 juillet. Le président Macron a fait son choix. Le site du Bugey a été préféré au Tricastin pour l'implantation de deux réacteurs EPR2. La municipalité de Satonnet-Village décide de rallumer la lumière la nuit. Une voie de circulation automobile temporairement supprimée sur les quais Tilsit et Maréchal Joffre pour sécuriser cet axe accidentogène. Où sont passées les voitures liées, les voitures rouges en autopartage ? Explication dans cette édition. Un vélo-café, un endroit unique associant bar, restaurant et atelier, ça se passe sur les quais du Rhône. Et puis nous parlerons également de cette nouvelle rame du tram mise en couleur, aux couleurs du Brésil. L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'exprime dans la tribune ce jeudi et revient sur la cession du club à l'américain John Textor. Les nuits de Fourvière ne s'arrêteront pas le 28 juillet, mais bien le 29 vient s'ajouter en effet une date pour le concert d'un groupe mythique.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président Macron a donc fait son choix en balance avec le Tricastin. Le site du Bugey a été préféré pour l'implantation de deux réacteurs EPR2. Six réacteurs nouvelle génération seront construits sur trois sites. Deux sites ont déjà été choisis à la centrale de Penly en Seine-Maritime et à Gravelines dans le Nord. EDF devait proposer donc un troisième site à l'État. Le site du Tricastin n'est pas totalement hors jeu toutefois. Le Conseil de politique nucléaire soulignant que les études techniques et les analyses se poursuivront sur le site du Tricastin dans la perspective d'accueillir de futurs réacteurs nucléaires. Le président de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain et du parc industriel, Jean-Louis Guyadet, et de nombreux élus du secteur du Bugey avaient fait entendre leur voix en faveur de l'implantation. 100 élus régionaux et de Suisse, essentiellement écologistes, avaient eux co-signé dans le même temps une tribune contre le projet d'implantation de réacteurs nouvelle génération à Bugey. Une enquête publique avait eu lieu également entre septembre et octobre 2022. Elle avait reçu un avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur. 150 hectares seront dédiés à cette extension, une énorme surface située sur les communes de Loyette et de Saint-Vulbas, à côté des réacteurs actuels de la centrale. La municipalité de Satonnet-Village vient de décider de refaire marche arrière après avoir décidé de l'extinction de l'éclairage public de 22h à 6h du matin. Début juillet, dans le parc de la mairie, la municipalité a décidé de rallumer les feux compte tenu des incivilités, un vandalisme ponctué de dégradation d'équipements publics. L'extinction rendait difficile l'exploitation des images de caméras de vidéoprotection. Un arrêté municipal avait été pris début juillet sur cette commune pour interdire aux moins de 13 ans, accompagné d'un adulte, de sortir de chez eux de 22h à 6h du matin et ce jusqu'à la rentrée de septembre.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Une voie de circulation automobile est temporairement supprimée sur le quai Tilsit et sur le quai Maréchal Joffre pour sécuriser cet axe accidentogène. On se souvient, en août 2022, deux adolescents circulant à trottinette avaient été percutés mortellement. En mars 2022, c'est un conducteur de scooter qui avait perdu la vie. La métropole de Lyon avait limité le quai à 30 km/h. Pour aller plus loin, la collectivité va mettre en place un aménagement temporaire. Une voie de circulation automobile est supprimée, permettant l'élargissement de la voie réservée aux bus et aux vélos. L'aménagement définitif sera mis en œuvre courant 2024 après concertation. Mais où sont passées les voitures liées ? Les petites voitures rouges en autopartage ont disparu et c'est définitif. Léon Parcoteau a décidé de mettre un terme à ce service de free-floating pour développer Cities. Les voitures blanches doivent en revanche être restituées là où elles ont été prises, dans une station d'autopartage. 600 véhicules Cities de 15 modèles différents devraient être opérationnels sur la métropole de Lyon d'ici la fin de l'année.
Lyon Demain ? En mode doux.
Dans l'ancien club de striptease du Bus Paradis, où la boule à facettes brille encore de mille feux, se trouve maintenant un vélo-café, un endroit unique associant bar, restaurant et atelier dans lequel des mécaniciens et mécaniciennes s'affairent pour réparer des vélos. Associant Nomad Kitchen et les ateliers de l'audace, ce lieu atypique est idéal pour les amateurs de vélo ou pour les personnes aimant se prélasser sur une belle terrasse en été. Le reportage de Nina Sag.
Avec les écologistes à la tête de la municipalité qui font du vélo un moyen moyen de mobilité de prédilection, de plus en plus de Lyonnais enfourchent leur bicyclette pour se déplacer. Mais en cas de crevaison ou tout autre problème technique, les cyclistes se retrouvent bien peinés pour réparer leur vélo. Mais il y a une solution simple et rapide, le Velcro, un lieu hybride entre restaurant, café et atelier de réparation situé à proximité de la voie cyclable. Priscilla Petitjean, directrice fondatrice et porteuse du projet Les Ateliers de l'Audace.
On a créé ce lieu en fait pour pouvoir proposer et des services et une expérience société. Donc les services dont on a tous besoin en fait, c'est vraiment d'avoir du divertissement, de pouvoir se faire plaisir et avoir un temps de répit et de repos et de partage avec des proches. Donc forcément un bar et de la restauration, ça me semble assez intuitif. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on voit dans Lyon qu'il y a des vélos qui se multiplient, qu'il y a une autre façon de se déplacer et de penser la ville qui va vraiment de l'avant. Et on voit qu'en fait on peine en termes de services à pouvoir proposer des choses. Et nous on avait au-delà de tout ça une vraie volonté de retrouver une mixité sociale et de faire sens. Je pense qu'on est dans une génération, dans un point de notre histoire où on a vraiment envie de remettre le sens au cœur de nos activités, de nos quotidiens. Et le but, c'était de pouvoir, à travers la réparation de vélos, à travers la restauration et la boisson, pouvoir avoir des valeurs fortes sur un commerce équitable, un commerce circulaire, un commerce frugal, local, qui permette de créer de l'emploi, qui fasse attention à son impact écologique et en même temps qui propose une performance économique, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, l'air de rien.
Pourquoi le Velcro, il s'inscrit dans une économie circulaire ?
Alors, le Velcro s'inscrit dans une économie circulaire par son mobilier, déjà, par le bâtiment, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez autour de vous a été chiné soit dans les structures telles que Mineca, qui sont un peu des ressourceries, soit également, il y a des poutrelles de la SNCF, il y a également du plancher de récup, il y a un maximum du bâtiment qui était sur place, qu'on a réutilisé, qu'on a transformé. On a fait appel à un chaudronnier qui a récupéré des choses à la sucrière, pareil, pour pouvoir refaire le mobilier ici qu'on a transformé. Les lampes sous lesquelles vous êtes sont des roues de vélo. Et les chaises qui sont là-bas sont des chaises qui appartenaient à des classes scolaires. Donc le but, ça a été d'utiliser de l'existant et de lui donner, on va dire, un nouveau souffle. Économie circulaire également au niveau du vélo. C'est-à-dire que les vélos là-bas qu'on a à vendre sont des vélos qui ont été issus soit de la déchetterie, soit de dons qui étaient mis au rebut, à qui on a donné une seconde vie, qu'on a remis en sécurité, en état de marche, et qui sont à vendre aujourd'hui et qui permet effectivement de pouvoir adopter une monture complètement écologique.
Comment comptez-vous de créer du lien entre le côté bar-bistro et celui de l'atelier ?
Pour créer du lien entre les deux espaces restauration et vélo, il y avait déjà une volonté par le mobilier de rappeler qu'il y avait les deux espaces qui sont présents. Il y a également la piste cyclable au sol qui est présentée. Il y a également des petits panneaux qui stipulent qu'on a un atelier de réparation. On a attaché des vélos ici et là. Donc tout n'est pas encore tout à fait en place, mais on va vraiment multiplier les indices pour montrer que il y a les deux qui sont présents.
Concernant l'atelier vélo, comment vous aidez à la réinsertion professionnelle ?
Donc le Velcro, c'est deux structures, donc Nomad Kitchen pour la partie bar restauration et puis la partie insertion sociale réparation vélo par les ateliers de l'Audace. Donc ce qui se passe, c'est qu'un parcours d'insertion, généralement, ça dure 2 ans et on a généralement une rupture à la fin de ce parcours, c'est-à-dire qu'en fait l'insertion, c'est quand même un milieu protégé, dédié à des profils, à des publics qui ont besoin d'avoir un peu un pied à l'étrier. Et au bout de ces 2 ans, et bam, c'est le monde normé, de l'emploi, avec des exigences qui sont assez fortes. Et nous, notre volonté avec le Velcro, c'était de pouvoir avoir un espace un peu hybride, où en fait, ces publics-là ont l'opportunité d'avoir une expérience avec des clients qui sont plus exigeants, des délais qui sont plus exigeants, avoir une image qui représente une structure et des responsabilités, une certaine autonomie. Donc le Velcro, en fait, s'inclut un peu comme la dernière étape d'un parcours d'insertion pour permettre effectivement le passage d'un état à un autre avec plus de fluidité, plus de facilité.
Au total, ce sont 4 mécaniciens en réinsertion professionnelle qui s'occupent de l'atelier vélo. Réparant tout type de vélo sans rendez-vous et en un temps record, soit maximum 3 jours pour la formule classique et une journée pour la formule express, le Velcro défie toute concurrence. Mais même si vous n'avez pas de vélo à réparer, vous pouvez tout de même vous y arrêter pour boire un coup ou vous remplir l'estomac. Thomas Zimmermann, cofondateur de Nomad Kitchen, nous parle plus en détail du côté restauration.
Ici, on met en place des résidences de chefs où on invite des chefs pour une durée déterminée et cette année, pour cette saison jusqu'à octobre de cette année, le chef invité c'est Aklé, qui est un restaurateur libanais.
Et du coup, vous proposez quoi comme aliment ?
Oui, alors donc il y a plusieurs choses à partager. C'est surtout des plats de partage, des falafels, houmous, ça c'est des grands plateaux à partager. Et on a un sandwich qui est très populaire au Liban qui s'appelle le kak, qui est à la base vendu sur des vélos. Donc c'était le clin d'œil, les gens se trimballent un peu partout au Liban avec avec ses pains sur des vélos, et donc on le présente ici dans des assiettes à partager ou à manger seul pour le déjeuner, le midi.
Du coup, en quoi la nourriture que vous proposez ici est différente ?
On parle de street food, on parle d'ingrédients nobles qui sont cuisinés de manière simple, donc c'est juste une offre street food dont on est fier. La quasi-totalité de nos cartes, c'est du circuit court. Si vous regardez sur les boissons, on travaille avec plus d'une dizaine de microbrasseurs de la région qui vont du Beaujolais à l'Ardèche, à la Savoie. Tous les fournisseurs de soft, par exemple, c'est des gens qui vont acheter des herbes un peu partout en France. Tout est fabriqué en France. On a des thés glacés qui sont faits dans le centre de Lyon, dans le second, avec une entreprise magnifique qui s'appelle Human & Tea. Voilà, l'idée, c'est évidemment le circuit court, c'est le point de départ.
Le Velcro est donc l'endroit idéal pour les amateurs de vélo, mais aussi les bons vivants amateurs de boissons et de belles terrasses.
Merci Nina. Une nouvelle rame du Citral mise en couleur. Elle circulera sur les lignes T1, T2 et T6 et elle prend une allure très brésilienne. La 7e rame décorée par les artistes de Zoo Art Show. Dans le cadre de ce projet artistique, le Citral a permis à l'artiste Raphaël Slix d'habiller les rames de l'agglomération lyonnaise. Le Brésilien à la renommée internationale met à l'honneur cette fois-ci le Pichachao, une forme de graffiti apparue à Sao Paulo dans les années 60, fait de couleurs, répétitions, superpositions et mouvements. L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'exprime dans la tribune ce jeudi, revenant sur la cession du club à l'américain John Textor. Aulas déclare que Textor n'était pas son premier choix pour la vente de l'OL. « Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG », avait rappelé dès mardi le patron historique de l'Olympique lyonnais. « Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion », avait-il déclaré dans les colonnes de l'équipe. Aulas assure avoir quelques regrets concernant cette vente. L'ancien dirigeant explique aussi avoir tourné la page tout en gardant un œil très attentif à la situation du club. Il insiste sur le côté évitable de la sanction prise par la DNCG. L'Olympique lyonnais qui a perdu son deuxième match de préparation sur le score minimum de 1-0 devant un adversaire plus expérimenté, Manchester United. Les Nuits de Fourvière ne s'arrêteront pas le 28 juillet comme annoncé, mais le festival ira plus loin avec une nouvelle date le samedi 29 juillet, une date supplémentaire pour le festival lyonnais et pour la tournée actuelle du groupe de Nicolas Sirkis dans les festivals. Il s'agit bien sûr du groupe Indochine. Les billets seront mis en vente au prix de 58€ demain vendredi à 11h sur le site des Nuits de Fourvière. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer en attendant une excellente journée.